Alors maintenant, je me tourne vers Marc Chémol qui va nous expliquer un petit peu le mystère de ce miracle qui nous a permis d'aboutir en un an à la publication des actes. Marc.
Je ne sais pas. Peut-être que le mystère, c'est l'amour. C'est toujours la réponse à la question sur le mystère. Hier, au moment de prendre la parole dans des circonstances similaires, vous vous souviendrez que j'ai exprimé ma perplexité et mes craintes en me trouvant devant une double difficulté. Or, ce soir, je crois que les difficultés sont encore pires, puisque nous sommes non seulement en fin de journée, mais en fin de colloque, que vous avez eu tant d'exposés aussi acérés, aussi complets sur des sujets aussi graves, et que tout ce qu'on dit maintenant semble être un petit peu du réchauffé. Et donc, je sens que le public a déjà été largement mis à l'épreuve et je souhaite d'abord concilier sa bienveillance. Alors, ces nouvelles difficultés, c'est d'abord que j'ai déjà parlé hier, que donc cette intervention a l'air d'une répétition. Ensuite, que je suis censé prendre la place de ceux qui n'ont pas pu venir s'exprimer pour des raisons indépendantes de leur volonté, comme on dit. Et comme on sait très bien que personne ne remplace jamais personne, je dirais sans doute des choses qui n'ont rien à voir avec ce que ces personnes illustres, dont je tairai le nom mais que vous voyez dans le programme, auraient pu dire. Et puis enfin, je suis obligé ou amené ou invité à présenter un livre auquel j'ai largement contribué, ce qui m'empêche sans doute d'avoir le recul et l'objectivité nécessaires pour en parler.
Non, pas du tout. Pas du tout.
C'est-à-dire c'est
nous
donc.
Nous sommes
oui, mais justement.
Dans la même situation.
Mais c'est
nous
donc.
Nous n'avons aucun complexe à prendre la distance nécessaire.
Voilà. Mais moi, je voudrais revendiquer le droit d'en parler en toute subjectivité d'exprimer peut-être plus clairement ce qu'ont déjà dit mes confrères ou mes collègues ou mes compères, c'est-à-dire que finalement, pourquoi nous sommes-nous résolus à parler de ce livre ? Et je crois que c'est tout simplement parce que nous en sommes fiers. En effet, c'est un livre que j'aime, et donc je crois que c'est pour ça que j'y ai consacré du temps, comme pour répondre à la question. Et je voudrais surtout dire, en commençant, que une réussite ne se fait jamais seule et que je souhaite d'abord adresser des remerciements publics, d'une part aux auteurs, aux véritables auteurs du livre, aux auteurs des communications du colloque, qui ont accepté sans sourciller de travailler dans des délais très courts, sous la pression de relances innombrables, d'un véritable harcèlement informatique auquel je me suis livré et grâce auquel aussi peut-être nous avons le privilège de présenter ces actes publiés dans un temps record. Deuxièmement, mes remerciements vont aux éditions Arachné qui, dans les rapports que j'ai eus avec eux, ont fait preuve vraiment d'un professionnalisme extraordinaire, d'une efficacité dans les nombreuses et extrêmement compliquées corrections que nous leur avons demandées, alors que, a priori, le texte étant entièrement en français, on pouvait penser que ce serait plus difficile à réaliser ici en Italie. Eh bien, pas du tout. Toutes les corrections ont été faites de manière absolument parfaite, sans jamais aucune erreur. Et je dois dire, puisque j'en ai l'expérience, que c'est rare. Donc, je vous remercie pour ça. Et puis, enfin, pour avoir fait un livre qui est... Bon, les actes de colloque, c'est un genre difficile. Bon, mais c'est un livre qui est un beau livre. Et je crois qu'il est beau dans sa discrétion, dans ses proportions. Et parce que, grâce aux soins que nous y avons apportés, je crois qu'il est à peu près correct au niveau des coquilles qu'on voit très souvent dans les publications. Alors, ce livre, il est intitulé, vous l'avez vu, « Trajectoire de deux capitales culturelles ». Et on a parlé de transversalité. Et c'est un livre qui, en effet, trace un portrait alterné des deux villes, Paris et Rome, Rome et Paris. Dans son introduction à la table ronde qu'elle présidait, Michel Gendron-Massalou a évoqué le château des destins croisés d'Italo Calvino comme étant une métaphore de la séance qu'elle présidait, mais dont j'aimerais dire que c'est souvent une métaphore de tout colloque. Des personnages réunis autour d'une table, d'abord silencieux, se mettent à parler à partir de cartes ou de sujets qu'on leur tire au hasard ou qu'on leur propose. Et j'aimerais passer du château des destins croisés aux chassés croisés, parce que je crois que finalement, c'est ce qui résulte aussi des présentations que nous venons d'entendre, le chassé croisé étant la figure centrale de l'ensemble de ce volume. Alors, le chassé croisé commence avec la couverture. L'illustration de couverture est conçue comme un clin d'œil par lequel nous voulions exprimer les trajectoires transversales à la faveur d'une de leurs intersections. Nous avions d'abord pensé à deux images juxtaposées, par exemple, une de Paris, une de Rome, les deux mairies, ou bien le Trastevere et Saint-Germain-des-Prés. Puis nous avons pensé à un tableau qui pourrait réunir dans le même tableau les deux villes. Et là, nous avons trouvé un tableau de Giorgio de Chirico, qui est d'ailleurs cité souvent dans le livre, qui s'appelle « Les archéologues », et dans lequel on voit deux allégories qui pourraient bien être Paris et Rome, avec des architectures, des bâtiments complexes dans le ventre. Et puis, nous avons pensé à un tableau d'un peintre italien qui parlerait de Paris, qui représenterait Paris, et là nous avions trouvé un tableau très intéressant de Gino Severini, intitulé « Souvenirs de voyage ». Mais pour des raisons en particulier de difficultés pour obtenir les droits de reproduction, nous nous sommes finalement arrêtés donc sur un tableau de Marius François Granet, qui se trouve au Louvre, donc tableau d'un peintre français qui représente Rome, mais dont la francité, si je puis dire, est redoublée par le fait qu'il représente la Villa Médicis. Et donc, déjà, ce chassé-croisé et la Trinité des Monts, chassé-croisé au niveau de la couverture. Ce chassé-croisé vertical d'abord, puis horizontal, c'est celui qui était exprimé par Victor Hugo dans une phrase très connue qui ouvre le colloque et qui a été reprise par Gilles Pécou dans sa communication. Vous venez de faire, dit-il aux Romains, du haut du Janicule, qui n'est pas loin une grande chose, vous, peuple romain, par-dessus tous les abîmes qui séparent aujourd'hui les nations, vous avez tendu la main au peuple français. La mère, qui est l'Italie, a embrassé la fille, qui est la France. Le Capitole a acclamé l'hôtel de ville, etc. Le peuple romain a bien fait bien de serrer la main au peuple français. Cette fraternité de géants est belle. Ce qui m'intéresse, c'est que le chassé-croisé est d'abord vertical, puisqu'il est d'abord celui de la filiation, qui est verticale par définition, mère-fille, et il passe à la fraternité, qui est horizontale, s'il en est. Il y a aussi un chassé-croisé dans les œuvres et dans leur réalisation, et là, beaucoup d'exemples ont déjà été donnés, et je ne les reprends pas. Il y a eu un chassé-croisé entre les artistes, le meilleur exemple, c'est peut-être le portrait alterné de Giorgio Strehler et de Dario Fo, qui est brossé par Jacques Nichet, un chassé-croisé entre les représentations, et ça me semble très important que ce livre montre bien les représentations dans le tissu social des deux villes, qui est ce qu'on a appelé tout à l'heure dans la table ronde les mythes, que ça soit dans la peinture, dans l'opéra, dans tout ce qui donne aux deux villes un statut symbolique. Rome, capitale de la Méditerranée sous l'Empire romain, Rome, capitale de la chrétienté, puis, chez Pasolini, de manière prophétique, comme le dit l'auteur de cette communication, la Rome de la negritudine et de la nuova preistoria. Chassé-croisé entre les disciplines, chassé-croisé entre les intervenants qui se répondent, se contredisent, s'anticipent d'une manière très spontanée. Donc, le chassé-croisé dont témoigne ce livre, le parcours diagonal ou transversal, spontané, bondissant, est sans doute la meilleure façon de marcher, ou en tout cas de progresser, qui n'est ni horizontal, ce qui supposerait une égalité, une équivalence ou une substitution, ni vertical, ce qui suppose une hiérarchie ou l'empire de l'un, la subordination de l'un sur l'autre, de l'une, puisque ce sont deux villes sur l'autre, mais plutôt celui du fou ou du cheval qui avance sur l'échiquier en diagonale et surtout en sautant au-dessus des obstacles sans les détruire. Et c'est un peu de cette manière que Paolo Fabbri interprète le chassé-croisé entre Strehler et Dario Fo. Tout se passe comme si, dit-il, la France avait longtemps représenté le modèle Strehler, celui d'une société organisée, structurée, centralisée, que Michel Gendreau-Massoulou appellerait une pensée fondée sur un principe de disjonction, tandis que l'Italie se penserait plutôt, c'est celle que reflète Dario Fo, comme une société dans une perpétuelle improvisation, comme dans la Commedia dell'arte, qui correspondrait à une pensée fondée sur le principe de la conjonction. Évidemment, pour Paolo Fabbri, la conclusion qui s'impose, c'est d'espérer que l'on arrivera dans l'avenir à mettre un peu de faux dans Strehler, un peu plus de Strehler dans faux. Cette démarche transversale, pluridisciplinaire, qui, en quelque sorte, fait partie de l'ADN d'Italique, pour reprendre une expression chère à notre président Paolo Carile, page 26, et donc de ses colloques, est celle dont ce nouveau volume d'actes vous apporte un nouveau témoignage. Je vous remercie de votre attention.